Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les rockers de la critique pour parler de films sortis depuis 3 semaines. Et il faut dire que le prix des auditeurs nous a empêchés d'évoquer la plupart d'entre eux. Les rockers, ce sont Sophie Avon de Sud-Ouest, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, qui fait sa une d'ailleurs 7ème Obsession sur Grave, le premier film dont on parlera bientôt, assez étonnant, de Julia Ducournau, tandis que Positif, Michel, fait sa une sur le film de James Gray, Michel, dont les éditions Le Bordelot publient les entretiens radiophoniques, on peut même dire de France Culture, et passionnant que t'ont accordé depuis longtemps les frères Dardenne. On parle de beaucoup de films donc, ceux de Lucas Bellevaux, de Grand Corps Malade, de Guillaume Canet, de Night Shyamalan, de Jeff Nichols, d'Andrei Vaida et des derniers parisiens de Amé et Ekwe. Dans le courrier de la semaine, eh bien, il faut vous dire la vérité, depuis un mois, les messages pleuvent par centaines chaque jour sur la boîte du Masque et la Plume à propos, vous l'imaginez, de La La Land, de Damien Chazelle. Donc, il est impossible de lire tous vos avis sur ce film qui vient de rafler 6 Oscars le week-end dernier. Voici donc de brefs extraits. On commence par les fans. Philippe Poitier de Paris. La La Land est une splendeur qui fait du bien et évoque le meilleur de Jacques Demy, de Minelli ou de Stanley Donen. Claude Balança a ressenti une harmonie, une poésie et une mélancolie qui font de ce film, Xavier, une œuvre sublime. Bernard Hector du PRE est persuadé que La La Land deviendra un classique du cinéma musical, au même titre que Chantons sous la pluie ou New York, New York. Patrick Dezève de Bruxelles est sorti de la salle avec de la lumière plein les yeux et de la musique plein la tête. Alexandre de Bordeaux, ce film plein de joie et de douceur est magnifique. Martial Imbeau trouve La La Land admirable. J'aurais voulu qu'il dure encore. Du coup, je suis allé le voir une deuxième fois. Guillaume Deltan de Lille. Comment ne pas tomber amoureux d'Emma Stone, qui a la grâce pendant tout le film, ou encore Christian Jensen, qui tient messieurs Murat et Le Herpeur pour des imposteurs, qui ne peuvent pas comprendre la profonde mélancolie du film. Max Bonneville de Villebon-sur-Yvette juge que démolir ce film relève au mieux de la mauvaise foi, au pire, Xavier, de la médecine du cerveau. À Nantes, pays de Jacques Demy, nous dit Pierre Balossière, la salle a applaudi à la fin du film, bande de béotiens ronchons, mais vive le masque. Et Arnaud Castex, nous dansions en sortant du cinéma, ma femme et moi, et cette belle musique ne me quitte toujours pas, mais en écoutant messieurs Murat et Le Herpeur se répandre sur ce très beau film, je me suis dit que vous devriez rebaptiser l'émission Le Goudron et les Plumes. Les détracteurs font aussi entendre de la voix et ils sont très nombreux. Gisèle Mornac nous dit La La Land est un film très niaiseux qui aurait dû s'intituler Cucu la praline. Loïc Jousny de Brest parle de scénario indigent, de clichés, de musique cacophonique, de montage aléatoire, de casting raté. Philippe Couteilla s'estime que Emma Stone a un joli tout petit filet de voix et Ryan Gosling ne sait pas chanter. Or, ni l'un ni l'autre ne savent danser. Philémon Heute va jusqu'à parler d'escroquerie. Toutes les bonnes idées de La La Land ont été piquées sans gêne au plus beau musical de l'histoire. Si vous voyez comme il est content là tout d'un coup, Xavier, comment, se demande Milav, un réalisateur capable de donner une telle énergie dans Whiplash réussit-il à se fourvoyer dans un roman photo pour coiffeur? Jean-Philippe Grelot rebaptise La La Land ennuyante. C'est une tarte à la crème ou la crème à tourner sans sucre. Robin Tourbillon nous écrit, c'est dans la douleur que j'apporte mon soutien à messieurs Murat et Le Herpeur. Ryan Gosling avec son air de poisson mort n'a aucun charisme et les ballets, hormis le premier, n'ont aucune invention ni aucune poésie. Enfin, j'arrête là parce que je pourrais passer la soirée à ça. Enfin, Caroline Vignal de Paris juge que Damien Chazelle se vautre dans un narcissisme débectant. Regarde mon gros plan séquence, t'as vu comme il était patent, mais oublie de créer des personnages. Résultat, on se fout des petites ambitions médiocres de ces deux niaiseux. Voilà, le débat est ouvert et il est clos en même temps parce que ne m'écrivez plus, je ne vais pas continuer toutes les semaines à stabiloter vos très longs messages. Juste un petit rectificatif pour finir, dans le dernier Masque et la Plume, François Ozon a dit qu'André Wilms était allemand et moi j'ai ajouté qu'il était sans doute suisse alémanique. Honte à nous deux et nos auditeurs nous corrigent. Jean Ruhlmann rappelle qu'André Wilms est bien français, il est alsacien. Né à Strasbourg. Quant à Vincent Froli, il précise qu'il est bien né à Strasbourg en 47, André Wilms, et jusqu'à au moins la prochaine guerre, qui bougera peut-être considérablement les frontières. Strasbourg n'est ni en Suisse ni en Allemagne, mais en France, voilà, mais nous continuerons à écouter le Masque et la Plume, cette merveilleuse émission belge. Voilà. Et on commence avec Split, sorti le 22 février, le nouveau film de Night Shyamalan, dont on attend toujours depuis Sixième Sens le nouveau grand film. Peut-être, allez-vous me dire, ce thriller horrifique de deux heures avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley et James McAvoy, c'est Kevin qui souffre, comme Xavier, du trouble de la personnalité multiple, en l'occurrence 23. Toi, je crois que c'est un peu plus, hein.
Ça peut aller jusqu'à 30-35 selon la période de l'année.
Et Kevin enlève trois adolescentes, dont une qui est quand même vraiment bizarre, hein, qu'il séquestre et auquel il impose de cohabiter donc avec ses 23 personnalités qu'avait très bien diagnostiqué le docteur Fletcher. Alors pour son scénario et pour l'écrire, Shyamalan dit qu'il s'est inspiré de Billy Milligan, un Américain qui a été arrêté pour viol à la fin des années 70 et jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l'identité que tu connais bien, Xavier. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est enfin le film qu'on attendait du réalisateur de Sixième Sens, Xavier ?
Alors déjà, tu parles à la personne qui n'a pas du tout marché au Sixième Sens, qui avait deviné le twist au bout de 5 minutes, donc je l'attendais désespérément, parce que tout le monde m'avait dit qu'il y a un twist formidable à la fin du film.
C'était bien, Sixième Sens.
Non, c'était déjà pas très très fin, c'était déjà pas très très bien.
C'était bien.
Et donc, le Sixième Sens, c'est un mauvais souvenir, parce que bon, au bout de 5 minutes, j'avais compris, donc je me dis ça va être autre chose, obligatoirement, et non, c'était ça. Donc déjà, j'ai pas marché à ce truc-là, et je ne marche absolument pas au cinéma de Shyamalan. C'est un cinéaste et un cinéma terriblement habile, et celui-ci en apporte une fois de plus la preuve. C'est très bien mise en scène en termes de grammaire. Nous sommes dans un labyrinthe, c'est un minotaure qui poursuit des victimes à l'intérieur d'un sous-sol, d'un lieu qu'on nous révélera à la fin et qui, dont la révélation d'ailleurs parachèvera la bêtise absolue du scénario.
Oui, mais comme tu ne vas pas révéler, s'il te plaît.
Parce que c'est d'une lourdeur et d'une pesanteur et d'une bêtise absolue. Alors déjà, on va dire aux gens, on nous ment. Et moi, j'aime pas, surtout en période électorale. 23 personnalités, 24, nous dit-on sur la fiche, dont une qui va se révéler, on en voit 5. Donc déjà, il en manque 19.
Il y en a plus que 5. Il y en a plus que 5.
Vous me direz lesquels. Nous avons donc le designer fashion PD, très 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 lourdement interprété par James McAvoy avec beaucoup de maniérisme. Nous avons l'enfant qui saussote, pas très subtil non plus. Nous avons la femme, qui est habillée à peu près comme Pénélope Fillon, c'est pas très sexe non plus, hein, je veux dire, avec un pull informe et une jupe tout autant. Nous avons le méchant qui kidnappe. Alors là, il fronce beaucoup les sourcils parce qu'il est méchant, il les kidnappe. Nous avons le monomaniaque qui essuie tout. Et voilà, je ne vois pas les autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et alors, le film qui pourrait être intéressant s'il ne se contentait de nous raconter l'histoire de ce kidnapping et ces trois filles apeurées qui voient donc apparaître un peu comme le calendrier de l'Avent. Hop, la porte s'ouvre et qui est derrière la porte? C'est l'enfant qui se fâte et qui voudra embrasser tout le monde. Ah non, c'est la femme un peu stricte, n'est-ce pas? Ah non, c'est le monomaniaque qui essuie tout derrière lui. D'accord. Comme il y en a que 5, au bout de 2 heures, on a compris. Non, sauf qu'il est obligé de nous expliquer et constamment ce qu'on voit à l'écran avec des séances de psychanalyse qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire que le type dans un espoir désespéré, peut-être qu'on l'arrête, qu'on l'empêche de commettre les crimes qu'il est en train de commettre, se rend régulièrement chez sa psy qui lui explique qu'il a plusieurs personnalités, donc que c'est normal, mais elle ne sait pas à qui il parle, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, nous sommes dans le mental et le flashback de l'une des des héroïnes, qui peut-être a déjà elle aussi rencontré ce Minotaure, parce qu'on a quand même très vite compris la métaphore, peut-être dans son enfance a-t-elle croisé elle aussi un monstre et va-t-elle justement pouvoir ainsi lui résister. C'est bon. Ballot, c'est lourd.
Il me semblerait que tu n'as pas
c'est
aimé.
C'est appuyé, et à la voilà. fin, il n'y a pas de twist, ça c'est pour deux bon. Nouvelles, mais c'est juste un petit thriller à deux balles.
Bon, qui a aimé ici, Michel?
Moi non. Non.
Donne la parole à Jean-Marc.
D'abord, j'ai un problème avec Night Shyamalan, c'est que, y compris ses premiers films, je trouve qu'il me fait penser à un adolescent qui découvre la philosophie et qui nous impose des variations extrêmement fumeuses, une sorte de New Age absolument ennuyeux. Et au lieu de faire comme Hitchcock ou Polanski, Psychose ou Répulsion, c'est-à-dire un film d'horreur formidable avec évidemment des tas de lectures possibles psychanalytiques, mais sans nous les infliger et nous les démontrer, au contraire, il se vautre dans une sorte de magma. Alors, le début, par exemple, est très bon, parce que là, on se dit, tiens, ces trois adolescentes qui sont prises dans un boyau souterrain et qui vont être capturées et enfermées, on se dit, tiens, enfin, Shyamalan va faire un film d'action où on pourra lire encore une fois tout ce qu'on veut, mais au moins, mais pas du tout. Il retombe dans ses péchés mignons. Alors, c'est peut-être mieux, effectivement, que Le Village ou que Signe, qui était vraiment le nadir de son inspiration. Donc ça peut se voir, mais de là à en faire un grand cinéaste, non, ça marche pas du tout.
Jean-Marc.
Non, moi je trouve ça prodigieusement intelligent. Et c'est pas pour moi le grand retour de Shyamalan. Il avait déjà eu lieu sur le précédent film The Visit que je trouvais formidable. Oui, vraiment, que je trouvais formidable, et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. D'abord, c'est d'un brio de mise en scène inouï. C'est la scène de Rapt, il y a vraiment une économie de plan, la brutalité avec laquelle James McAvoy entre dans l'auto, le jeu sur le point de vue, c'est vraiment éblouissant. En termes de cinéma, pour moi, c'est l'équivalent de Hitchcock aujourd'hui avec un vocabulaire contemporain. Après, je trouve pas du tout que sur la psychanalyse, ce soit plus appuyé ou plus lourdingue que La Maison du Docteur Edward, c'est-à-dire que les grands cinéastes s'emparent de trop psychanalytiques.
Oui, mais qui moi, je préfère qu'ils s'inspirent de Répulsion.
Oui, enfin, c'est quand même très bien.
De Psychose que de La Maison du Docteur Edward.
Évidemment, on pense à Psychose, et je trouve que James McAvoy, ce qu'il fait avec ses personnalités multiples, c'est aussi troublant et aussi étrange que ce que fait Anthony Perkins dans Psycho. Donc pour moi, c'est vraiment un très très beau film. Et le grand sujet de Shyamalan, c'est vraiment la croyance et la façon dont il présente ce dont souffre le personnage principal comme une pathologie, mais peu à peu il le fait basculer dans une dimension mythologique, et on ne sait jamais si on est dans le réalisme ou dans le fantastique. C'est extrêmement bien mené, et on ne sait pas quoi croire, et la manière dont il brouille cette frontière-là, je trouve ça très très beau. Et une dernière chose, le personnage le plus passionnant, c'est la victime, c'est la jeune fille, et la façon dont elle est elle-même affectée d'un trouble, mais ce qui fait qu'elle est une victime, c'est qu'elle n'a pas accès à la bête anale. Je trouve que c'est très émouvant et très troublant, y compris sexuellement, pour répondre à Xavier.
Mais on avait besoin des notes en bas de page, comme ça, des explications de texte toutes les 10 minutes pour bien nous faire comprendre ce qu'on était en train de voir. On est en 2017, tu cites des films que je fais dans les années 60, où effectivement on commence à balbutier les travaux de la psychanalyse, donc de temps en temps il faut les surligner, et Michel a raison, c'est pas parfois les meilleurs films d'Hitchcock, mais là on est en 2017, je crois qu'on peut jouer de l'ellipse maintenant, on peut jouer de la finesse.
Bon, d'abord, c'est du côté de la mise en scène, il joue vraiment de l'ellipse, et par ailleurs, il tire disons les tropes psychanalytiques vers quelque chose de baroque, de spectaculaire, au bord de la farce.
Construction du flashback fine, intelligente.
Sophie.
Oui, moi j'aime pas de film parce que je trouve qu'il est, il relève, j'ai horreur des films qui relèvent comme ça du système, de la recette, du retournement ou de l'enfermement, et qui sont programmatiques comme ça. Et en plus, je sens une rentabilité à tout prix dans ce film. C'est-à-dire que tout doit être efficace, rentable, y compris la pathologie dont il se sert au départ, en la dévoyant et en surenchérissant. Alors 24, 36, j'en sais rien combien il pourrait y en avoir. Là aussi, c'est du super, super, super Hitchcock qu'il veut faire. Sauf que c'est pas du Hitchcock quand même. Et donc moi, il me semble que c'est comme le jeu de l'acteur de comment il s'appelle, McAvoy, qui est
James
McAvoy, qui en un seul rôle touche le gros lot et en fait 18 ou 24 ou 50. Au bout d'un moment, c'est très prévisible, c'est assez long. Alors c'est vrai qu'il y a une mise en scène qui est très sophistiquée, et c'est un film qui se veut malin, qui se veut sophistiqué. Moi, je le trouve horriblement prévisible, et j'y m'y ennuie. La phrase quand même du film, c'est « on est ce qu'on croit être ». Bon, c'est quand même pas la super leçon de la soirée, quoi.
Ça dépend pour qui, n'est-ce pas, Jean-Marc? Split de Night Shyamalan, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. Rock'n'Roll, le film de Guillaume Canet, qui lui est sorti le 15 février, qui marche très bien, j'ai vu en salle. Et Canet qui se raconte et se met en scène avec Marion Cotillard, mais aussi Camille Rove, Gilles Lelouch, Kev Adams, Yvan Attal, sans oublier mes préférés, c'est-à-dire Johnny et Laetitia Hallyday. À 43 ans, Canet donc a un gros coup de blues alors qu'il joue dans un drame naturaliste sur un pasteur du nord de la France. Une journaliste de Elle lui fait remarquer qu'il est devenu out. Et sa partenaire à l'écran lui explique qu'il a cessé d'être désirable, contrairement à Pierre Ninet et Gaspard Ulliel, depuis qu'il est marié à Marion Cotillard, qu'il a un fils, une maison de campagne, et en plus qu'il ne vit plus que pour les chevaux, ce qui est quand même normalement la fin totalement de la modernité. Non seulement il serait ringard, donc, mais en plus, ce qui n'arrange pas les choses, il souffre d'une douleur aux testicules, et ça c'est vrai que ça peut être embarrassant. Donc faut que ça change. C'est donc une autoparodie de 2h03, où chacun joue son propre rôle, y compris d'ailleurs Marion Cotillard, qui parle en joual pour préparer son tournage avec Xavier Dolan, et où Canet, lui, joue même un malaise d'alcoolo shooté en boîte de nuit. Bref, la crise au sens propre de la quarantaine. Ça vous a plu, Sophie ?
Bah, c'est donc qu'on est bienveillant ou sévère. On va dire que c'est à moitié raté ou à moitié réussi, c'est selon.
Il faut choisir. Au masque, il faut choisir.
Oui, mais je vais te répondre pourquoi. Je trouve que ce film est à moitié raté, mais à moitié seulement, parce que je trouve que chaque fois que Marion Cotillard est à l'écran, elle est formidable. Je trouve qu'elle a un potentiel. On connaissait,
comme toujours,
on connaissait son talent dramatique, oui, mais on l'a assez peu vu dans des rôles comiques. Et je trouve que dans la comédie, elle a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Ce qui est amusant, du coup, c'est que lui, et elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour être drôle. Le problème, c'est que quand c'est lui, ça rame énormément et ça marche pas, quoi. Et Dieu sait que pourtant, il se donne du mal pour que ça marche. Il se donne du mal dans la dérision, dans le masochisme total. Il se donne beaucoup, il gesticule, il va même plus loin, il utilise des effets pour arriver à se faire remarquer en quelque sorte. Et du coup, j'y ai vu presque une fable de La Fontaine, quoi. J'y ai vu vraiment l'histoire d'un type qui essaie de se gonfler, de se gonfler, de se gonfler pour exister, quoi, et pour être à la hauteur de sa femme. Alors, je sais bien qu'il n'est pas parti de ça, hein, Guillaume Canet, mais on s'en fout. Lui, il s'amuse avec son intimité, donc nous, on peut s'amuser aussi de nos interprétations. Mais du coup,
on parle de l'intimité qu'il veut bien nous montrer.
Qu'il veut bien nous montrer, du regard des autres, etc. Oui, mais moi, ça m'amuse beaucoup de voir comme finalement ce film, malgré lui et qui lui échappe, dit. Finalement, ben regardez comme ma femme est bonne et regardez comme moi je suis un acteur quand même très très en dessous. Donc je trouve que sous cet angle-là, le film est assez rigolo. Bon, voilà, je considère pas que c'est un grand film par ailleurs.
Michel ?
Oui, je crois qu'il faut tout de même juger le film à l'aune de Guillaume Canet et à l'aune de la comédie populaire française. Alors dans les deux cas, c'est un film que je trouve plutôt réussi. À l'aune de Guillaume Canet, parce que j'ai jamais vraiment marché au film de Guillaume Canet, en particulier ce côté toujours sentimental, gnangnan, comme dans...
Les petits mouchoirs n'avaient pas fait la une de positif.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Genre justement les petits mouchoirs. Je trouve qu'il est bon tout de même dans l'autodérision, et c'est mieux réussi que mon idole. C'est-à-dire que ce que je trouve dans ce film, effectivement, ce qui est vraiment drôle, c'est ce portrait de lui-même où il se charge. Et alors, c'est vrai, tu as donné la longueur du film de plus de 2 heures. C'est incontestable que le film traîne parfois et qu'il y a des longueurs. Mais en même temps, je trouve que par rapport à ce qu'on voit régulièrement dans ces fameuses comédies du samedi soir qui sont d'une débilité profonde, je trouve qu'il y a ce film a vraiment des choses extrêmement drôles, et en particulier, effectivement, le rôle de Marion Cotillard. Mais lui-même avec ce double qu'il s'invente, une sorte de double maléfique où il est gonflé, il est une sorte de personnage tout rempli de lui-même, si j'ose dire, dans tous les sens. Moi, j'ai plutôt marché. Je trouve que c'est loin d'être un mauvais film. C'est un peu tard pour Canet de se révéler comme un metteur en scène tout de même plus inventif qu'on ne
pourrait te dire. C'est quand même pas. c'est pas Johnny Hallyday quand même.
Tu vas être déprimé encore plus là.
Mais ça fait beaucoup penser à des séries télé françaises comme par exemple 10% sur le milieu, la série de France Télévisions sur le milieu du showbiz. Et je trouve que, ou même Platane d'Éric Judor où il y avait justement Guillaume Canet. Et je trouve que de ce point de vue-là, le film est assez ringard. Et assez maladroit et un peu à la traîne de ce que la fiction télévisuelle française produit comme connivence amusée sur le milieu du showbiz se représentant lui-même. Et moi, je trouve vraiment le film très mauvais pendant 1h30. Je trouve que le masochisme de Guillaume Canet, c'est vraiment une forme à peine très peu élaboré de narcissisme et de coquetterie. Je trouve que toute la dimension scato dont tu parlais, je la trouve très, très lourde, assez vulgaire, vraiment pas inspirée. Je trouve que souvent le film est gênant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se moque de lui-même qu'il en devient plus intéressant. Et à une demi-heure de la fin, il se produit une sorte de dérapage que je n'ai évidemment pas raconté, mais où le film tout à coup se quitte ce registre un peu satirique pour aller vers une sorte de conte un peu absurde ou à base de défiguration. Et pendant une demi-heure, on affleure le territoire des frères Farrelly et ça devient un peu troublant. Alors, comme Michel, je dirais que c'est un peu tard, une demi-heure avant la fin, pour que le film devienne un petit peu intéressant.
T'exagères un peu en disant qu'avant c'est gênant, c'est pas gênant.
Ah non, je trouve ça pas drôle du tout, je trouve que tout tombe à plat, que c'est très peu inventif et que Guillaume Canet...
Mais vous avez
moi
pas,
j'ai assez peu d'intérêt pour lui et comme réalisateur et comme acteur, et la déconstruction de Guillaume Canet par lui-même ne m'intéresse pas plus que ce qu'il est au premier degré.
Parce que vous aimez pas les hommes de cheval, c'est pour ça. Xavier.
Oui, objectivement, c'est un peu raté. C'est tout trop long, il faudrait couper énormément. Il y a des gags qui s'éternisent, comme celui de l'accent québécois que prend Marion Cotillard pour travailler sur le nouveau film de Xavier Dolan.
Ouais,
mais là, il y a un moment, c'est épuisant. Il y a un moment, il faut le réinventer, ce gag-là. Il le réinvente brièvement quand le gamin, leur fils, se met à parler, lui aussi, en québécois. Et régulièrement, on se dit, c'est dommage, il aurait fallu couper. Il aurait fallu parce qu'il y a des trouvailles. Comme vous avez effectivement Platane d'Éric Judor est un chef-d'œuvre absolu à côté de ça, mais d'écriture ciselée, de brièveté. Là, le problème, c'est que le producteur aurait dû resserrer. Il y a quand même des trouvailles formidables au retour de la soirée des Césars, où il tire la gueule et où elle serre son sourire parce qu'elle ne veut pas l'afficher évidemment trop. Il va se coucher et elle met son quatrième César sous la table basse, qui devient donc une table basse de César, et elle éclate de joie ce qu'elle n'a pas pu faire avant parce qu'évidemment elle allait risquer de vexer son mari qui une fois de plus est rentré débité. Et ça, c'est un gars. Je suis désolé, Jean-Marc, que je trouve extrêmement fin, intelligent. Alors, il y en a qui sont trop longs, il y en a qui sont interminables.
C'est beaucoup plus filmé que Split de Shyamalan, donc.
Oui, alors, en même temps, c'est presque aussi drôle. Donc, tu vois, l'un parodiquement et l'autre. Donc, je trouve que régulièrement, il a de très bonnes idées. Ce type, Guillaume Canet, quand même, qui fait rêver les minettes, qui est un réalisateur, qui rentre à 7h30 pile, tous les coucous sonnent à l'ensemble, au moment où il franchit la porte comme un espèce de petit fonctionnaire. Donc, il y a régulièrement des trouvailles. Effectivement, ça se cherche, ça se délite. Quand les frères Attal le foutent dehors de leur bureau, parce qu'il a ruiné un projet, c'est une scène quand même assez surréaliste. La dernière partie, je suis d'accord avec toi Jean-Marc, là on affleure quand même effectivement une violence, un surréalisme, un absurde. Et puis à la toute dernière minute, il rend hommage à l'une des séries de mon enfance, Mon ami Ben. Ah bah oui, vous n'avez pas regardé Mon ami Ben qui se passait dans les Everglades.
Donc tu n'es pas exclusivement Bob l'éponge.
Voilà. Donc, voilà, je suis... Non, je vais pas jeter le film. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée, malgré effectivement une écriture qui aurait gagné à être resserrée.
Rock'n'roll, Guillaume Canet, pas de réaction
et
sur
avec
ce
les
film.
Il hurlait de rire.
Chez nous,
qui planque les bouteilles d'alcool pour pas que Johnny tombe dessus, moi ça me fait rire.
Chez nous, qualifié par Gilbert Collard, qui ne l'avait pas vu de film de propagande anti-FN, c'est le nouveau film de Lucas Bellevaux dont il co-signe le scénario avec l'écrivain Jérôme Leroy, et c'est avec Émilie Dequesne, André Dusselier, et en clone de Marine Le Pen, Catherine Jacob, qui joue moins bien, je trouve, que Marine Le Pen. Enfin, comme comédienne.
Oui, d'accord.
Hein. C'est mon sentiment personnel. On est dans une petite ville du nord de la France. Pauline, c'est Émilie Dequesne. Deux enfants, un père malade, ancien métallo et toujours communiste. C'est Patrick Descamps. Et elle exerce le métier d'infirmière à domicile. Tout le monde l'aime. Elle est si dévouée et populaire, d'ailleurs, que le bon docteur Berthier, c'est Dusselier, qui œuvre en sous-main pour le bloc patriotique, réussit à la persuader d'entrer dans ce parti d'extrême droite et de se présenter au municipal. Et après avoir rencontré la patronne du parti, donc Agnès Dorgel et Catherine Jacob, Pauline accepte, quitte à rompre avec son père. La scène est assez violente, il faut dire, et avec ses amis. C'est clairement un film à thèse. D'ailleurs, Bellevaux a dit dans le dossier de presse, ce film s'adresse à ceux qui seraient tentés de répondre au chant de ces sirènes, avec évidemment ce que la démonstration peut avoir de didactique. Mais je trouve que la manière dont le destin de cette petite infirmière bascule dans l'extrémisme est assez bien dessinée. Michel.
D'abord, je trouve le projet tout de même tout à fait louable, surtout dans cette campagne électorale, je parle un peu de politique, où aucun des candidats à la présidentielle ne démonte, n'attaque Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils sont tellement tous déchaînés à se dévorer les uns les autres qu'ils oublient de démonter le programme et les méthodes de séduction du Front National. Donc déjà, je trouve que c'est courageux de la part de Bellevaux dans un cinéma français à tone quand il s'agit de la politique. On parle beaucoup de social, mais pratiquement jamais de politique. C'est courageux de l'avoir fait. Le film n'est pas sans défaut, incontestablement. Tu as raison, il y a le côté didactique, le côté aussi, la présentation des groupes néo-nazis n'est pas très convaincant, c'est le moins qu'on
puisse
dire.
Toute la partie parallèle, si j'ose dire.
Voilà, n'est pas convaincant du tout. Le côté film noir n'est pas convaincant.
Du bloc patriotique.
Mais par contre, tout l'itinéraire de cette fille, très influencée par son médecin, son ami médecin, joué formidablement par Dussolier, qui l'embrigade dans ce parti qui est en fait le Front National. Tout cela est très bien montré avec le père qui est un militant communiste. Il y a beaucoup de communistes qui sont passés au Front National, mais un père qui est très convaincant dans justement lui qui s'est été donné dans les luttes ouvrières. Donc c'est pas le meilleur film de Belvaux, incontestablement, mais c'est un film nécessaire. C'est un film qui témoigne d'un vrai talent. Et ce qu'on peut regretter, c'est effectivement le Catherine Jacob qui n'est pas à la hauteur du rôle de Marine Le Pen, parce que du personnage de Marine Le Pen, parce qu'elle est plus maligne et plus intelligente.
Le paradoxe, c'est que Dussolier, qui joue l'intermédiaire, est sacrément efficace d'ailleurs, est beaucoup plus convaincant politiquement que Catherine Jacob.
On a un peu le sentiment qu'elle a un modèle quand même, malgré tout, avec Marine Le Pen, et qu'en même temps elle veut s'en défaire de ce modèle qu'elle fait du Catherine Jacob, tout en étant inspirée par Marine Le Pen. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Moi, je suis d'accord avec Michel sur le courage du film. Enfin, c'est quand même, on n'a pas beaucoup de cinéastes qui empoignent comme ça le réel, surtout en ce moment. Je pense que paradoxalement, Lucas Belvaux est d'une telle honnêteté, un tel souci d'honnêteté, il a tellement peur de tomber dans la caricature que d'une certaine manière, ça l'encombre à un moment. Il veut rendre compte dans tous ses recoins du fait que le parti est très hétérogène. Il veut bien dissocier les électeurs du parti. Il veut montrer
les extrémismes
de choses,
du parti. Ouais,
à l'intérieur même de ce parti, où les gens même se tapent sur la gueule eux-mêmes entre eux, les électeurs qui sont encore autre chose. Et il a un tel souci de cette probité, finalement, qu'il se retrouve à manipuler une machine de dosage d'équilibre qui, je pense, à un moment donné, le prive un peu de liberté et prive le film même d'une certaine appréhension et du souffle qu'il pourrait avoir, qu'il essaie de remplacer par la menace noire du film noir, que moi j'aime bien par ailleurs, mais qui ne suffit pas à lui donner ce souffle. Alors ça, évidemment, c'est un peu dommage. Après, c'est une fiction et ça repose sur des personnages. Là où je suis moins d'accord avec toi, Michel, je trouve que le personnage de Guillaume Gouix, moi je le trouve formidable. Je trouve que là, il arrive justement avec ce type qui a une gueule, vraiment, lui est un comédien très subtil, qui arrive à faire cohabiter la brutalité et la fragilité en même temps. Je trouve qu'il est à la fois attachant et en même temps il fait des choses épouvantables. Et pourtant, il a une dose d'humanité incroyable. Je suis un peu moins convaincue par le personnage de Pauline, que je trouve, pour le coup, un peu utilitaire, un peu didactique, même si je sais qu'il y a des gens de gauche qui basculent à droite. Je trouve qu'elle le fait de manière un peu candide et un peu rapide. Mais il filme très bien la terre, il filme très bien ce lieu, il filme cette terre qui régurgite le passé, il filme très bien la géographie et l'histoire en même temps. Il est fort pour ça, quoi. C'est un peintre du paysage aussi.
En revanche, l'épilogue n'est pas tout à fait réussi, à mon avis, qui est un peu attendu et un peu pesant. Jean-Marc.
Oui, je pense que c'était un peu une équation insoluble ou difficile à résoudre. À la fois, le film est captivant parce que il parle vraiment du présent le plus vif, donc on est quand même tout le temps intéressé par ce qui se passe, parce que c'est une gageure assez audacieuse. Et en même temps, je pense que, en tout cas, il n'a pas trouvé les bonnes solutions de représentation pour s'en sortir. Et effectivement, là où le film pêche vraiment, c'est sur ce personnage qui est modelé sur Marine Le Pen. Donc, Catherine Jacob ne réussit absolument pas à l'incarner, et la scène de meeting est totalement ratée. Et là, le film échoue, je trouve, complètement à montrer quels sont les mécanismes de fascination, l'énergie, comme ça. Presque de rockstar que Marine Le Pen est capable de susciter dans ses prestations orales, et Catherine Jacob n'arrive pas du tout à figurer ça. Je suis gêné aussi par la façon dont tout est tout le temps représentatif d'une vérité qui serait uniquement une vérité des statistiques sur les mécanismes comme ça les grands courants, les grands mouvements électoraux en France, le passage de l'électorat communiste à l'extrême droite. Tout ça me semble déterminé uniquement par une vérité de la majorité des chiffres et jamais une singularité de personnes. Donc les personnages me semblent toujours
pas
un peu trop trop fléchés par ceux qui sont censés représenter. En même temps, je trouve qu'effectivement, Lucas Belvaux est un bon cinéaste, donc il y a vraiment des scènes bien construites. Et si Guillaume Gouix est vraiment un très bon acteur, mais je pense quand même que son personnage est aussi un peu trop déterminé par le scénario et qu'à la fin, ça devient presque une problématique de vaudeville, le choix qu'elle doit faire entre sa vie amoureuse et ses nouvelles convictions idéologiques. Ça me semble pas non plus une très très bonne résolution.
Xavier.
Moi, je serais plutôt du côté de Sophie. Effectivement, il y a un problème avec l'épilogue, nous sommes d'accord. Mais en revanche, je pense que si on a un problème avec la scène Catherine Jacob, Marine Le Pen, c'est qu'on a un modèle. Donc, obligatoirement, on a un calque qu'on projette. C'est normal. Mais c'est le seul personnage qui, en même temps, appartient à la réalité dont parlait très très bien Jean-Marc. Le reste du casting, j'allais dire, du casting dramaturgique, ce sont des personnages de fiction qui ont une force romanesque. Je trouve que Guillaume Gouix, par exemple, apporte énormément de romanesque dans cette histoire, sombre, délétère, mortifère, menaçante, troublante, parce qu'en plus, c'est un acteur effectivement très très beau. Moi, je trouve que le film est très cohérent avec son propos. Il n'est pas idéologique. le film, parce que a priori les gens qui ne vont pas, qui vont voter Marine Le Pen, n'iront pas voir le film.
Contrairement à ce que pressent tous les membres du FN.
Et je pense que les gens qui vont aller voir le film seront déjà un peu acquis à la cause non Marine Le Pen. Ce qui est intéressant,
d'ailleurs,
c'est
d'ailleurs, il y a pas foule.
Il y a pas foule, malheureusement.
Disons la vérité.
C'est un cinéaste belge qui s'attaque à un vrai problème de politique française dans une région qu'il connaît bien, celle du Nord, celle de frontalière avec son pays. Et je crois que c'est un film de territoire. Et Sophie a commencé à le dire. C'est un western, c'est un polar. C'est-à-dire qu'il décrit très très bien la manière dont le Front National s'est ancré dans les territoires, jouant justement de la répartition territoriale de certains départements. La scène où elle est agressée dans une cité est impressionnante. Là, il y a vraiment une scène de western. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des zones enclavées, il y a des manières comme ça. Et à l'intérieur de ça, il y a le personnage de Lucholier qui connaît très très bien ce territoire-là, qui connaît très bien sa diversité, qui connaît très bien sa complexité, ses rivalités intérieures et qui en joue magnifiquement. Donc l'intérêt du film, il n'est pas dans sa manière de démonter, de dénoncer le Front National, c'est au contraire de dire comment ce parti a réussi, par ce jeu de connaissance du local, local souvent abandonné par les autres partis politiques, à trouver sa marque, à la poser, et effectivement à réussir à retourner des personnages. C'est un personnage de fiction, celui d'Émilie Dequesne, donc à un moment, effectivement, il faut qu'elle passe de la gauche héritée de son père à cette... Mais en même temps, elle n'épouse pas les idées, elle épouse une certaine comme ça dynamisme, elle pense vraiment que c'est une solution pour s'en sortir, et elle est au plus près, en tant qu'infirmière, de ces problématiques-là. Et je trouve à ce niveau-là que le film de Bellevaux est d'une grande force, d'une grande subtilité, d'une grande intelligence.
Chez nous, c'est donc le film de Lucas Bellevaux. Oui, une réaction sur ce film, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. Je crois que vous venez de tout dire. Mademoiselle Sophie Avon a insisté sur le côté un peu hétérogène, justement, de la description du bloc patriotique. C'est pas faux. C'est peut-être effectivement un peu le bémol qu'on pourrait apporter à ce film dans le côté didactique. Alors, à un moment, j'ai cru voir le sigle RNP, me semble-t-il. Donc, il est un des sous-courants de ce bloc patriotique. Je me suis reporté à monsieur Henri Amouroux, bien connu à France Inter, sa grande histoire des Français sous l'occupation. Le RNP, c'était le parti de Marcel Déat, fondé le 2 février 1941.
Sous l'occupation.
Sous l'occupation. Et d'ailleurs, monsieur Henri Amouroux explique bien que Déat, Doriot, Deloncle, etc., sont très rivaux entre eux. Et en plus, ils sont tous opposés au maréchal Pétain. Mmh. Donc, je veux dire, ce côté hétérogène a toujours été à l'extrême droite française. Il y a un deuxième point qui m'a un petit peu embarrassé, c'est on a l'impression que la Marseillaise est l'apanage du Front National. Non, la Marseillaise, c'est notre hymne national, c'est l'hymne de la République française, c'est un chant révolutionnaire. Et on est en train de célébrer le centenaire des deux révolutions en Russie, notamment celle de février. Rappelons que la grande manifestation qui commence la révolution de février, qui va conduire à l'abdication du tsar, celle du 23 février 1917, la manifestation des femmes, elle chante en russe la Marseillaise. Et puis, y a un autre point, je voudrais rassurer monsieur Simon, Marine Le Pen ne gagnera pas. En France, on est protégé par notre constitution, que tout le monde critique, mais qu'une excellente constitution, et on a des élections à deux tours. Donc, elle sera peut-être en tête au premier tour, mais elle sera balayée au second tour.
Merci pour votre intervention. On parlait de chez nous, le film de Lucas Bellevaux. Allez, on ne présente plus le slameur Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade. Son histoire, il l'a raconté dans un livre Passion qui vient d'être réédité dans la collection de poche Point au Seuil. Et voici qu'il la filme avec le réalisateur de ses clips, Mehdi Idir. Et dans son propre rôle, un comédien, moi, qui m'a épaté, c'est Pablo Poli, dont j'ai lu qu'il avait dû perdre 12 kilos pour se glisser dans la peau de Ben, à 19 ans, je le rappelle. Ce garçon du 9-3, qui rêvait de devenir basketteur, a fait une chute dans une piscine dont le niveau de l'eau était trop bas. Sa tête a heurté le fond. Le film commence au moment où, sur son lit d'hôpital, il se réveille en tétraplégique incomplet. Il se poursuit dans le centre de rééducation, qui est le vrai centre d'ailleurs, où le Grand Corps Malade a été soigné. Et là où Ben va lentement réapprendre à marcher, à pisser, à vivre. Ça pourrait être plombant, moi j'ai trouvé ça émouvant, parfois drôle, avec, il faut dire, ces blagues dont seuls les handicapés entre eux sont capables, du style « tu sais où on peut trouver un tétra ?» dans le dernier lieu où on l'a laissé. Plus de très jolis moments, je trouve, entre Pablo Poli et Soufiane Guérab, ou comment on peut s'aimer en fauteuil roulant. Il y a un plan, notamment dans un couloir à ciel ouvert, assez beau, où les deux fauteuils roulants se tournent l'un autour de l'autre, amoureusement. Ils en pensent quoi, les critiques? Oui, parce qu'il y a aussi cet infirmier au début qui est insupportable, qui passe son temps à dire à Ben, il va comment ce matin, qu'est-ce qu'il va manger? Donc là, ils en pensent quoi, les critiques? Tiens, Xavier.
Bah, il a craqué, il a cédé au charme du film, il a eu très peur pendant les trois premières minutes où la caméra fait semblant de s'éveiller avec le personnage, et ça, je me suis dit, mon Dieu, ça va être la caméra subjective. Ah, ça ne fonctionne pas, c'est pas une scène très subtile, alors que le film va l'être, justement, beaucoup plus, une fois qu'il a posé son procédé. C'est un film qui arrive à être, moi je trouve, tout le temps drôle, avec effectivement cet humour du désespoir, mais cet humour de vie, de vitalité absolue. Le gamin, Pablo Poli, il est absolument formidable, parce que c'est l'adieu à l'insouciance, c'est l'adieu à l'innocence, c'est l'adieu à l'enfance. C'est un adulte déjà massacré, c'est un adulte cassé, mais c'est un adulte qui veut absolument, au sens propre comme au sens figuré, se relever. Et je trouve qu'il y a un sens du collectif dans ce film-là, parce qu'effectivement, c'est avec d'autres camarades qu'il va réapprendre à bouger, à croire en certains lendemains. Je trouve que les tragédies, les douleurs, elles sont là, mais elles sont, j'allais dire, bord cadre, elles sont jamais le sujet principal du film. Le sujet principal du film, c'est comment essayer de vivre avec cela. Je suis au début, le ton de la chronique et l'humour incessant, ça va pas le faire sur deux heures, ça va s'épuiser. Et en fait, pas du tout, parce que l'écriture est extrêmement précise, que les gars, justement, se délitent, se renouvellent, sont extrêmement fins. Il y a, tu l'as cité, cette blague.
Et puis, tous les rôles périphériques, c'est-à-dire les médecins.
Oui, qui sont très caricaturaux, très emblématiques au début, apprennent justement, se découvrent, gagnent en étoffe. Non, franchement, moi je dois avouer que c'est un film qui m'a énormément touché. Il y a des choses prévisibles, mais c'est un premier film, et franchement, il est prometteur.
Sophie ?
Oui, et puis c'est une expérience de telle que ça respire l'authenticité aussi, c'est une leçon de courage, tout ça c'est vrai, c'est difficile de détester ce film. Bon,
de détester ce film,
de ne pas l'aimer. Non, mais parce que je veux dire qu'il y a quelque chose d'effectivement forcément d'émouvant, parce que ça, c'est tellement authentique, tu sens tellement que ce type il a vécu ça.
Qui était le cas du livre, qui raconte son,
il revient de l'enfer. Que
mais
forcément,
il est pas dans ce registre.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, ce qui est très fort dans le film, c'est que il y a aucune intériorité. C'est-à-dire, tout se passe à l'extérieur des corps, et il en fait un film de groupe. Tu as raison, il en fait un groupe de potes. Il en fait un film quasiment de colo. Il en fait un film de copains, quoi. Et ça, ça pourrait être la faiblesse du film, parce qu'il n'y a pas d'intériorité. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'ils s'en sortent, et c'est ça qui est assez beau dans le film. Je trouve qu'il est bien écrit. Je trouve qu'il y a des petites pépites, comme, toi, tu as cité cette scène. Moi, j'aime beaucoup la scène de la piscine, où je crois que c'est Moussa Mansali qui se retrouve sous le casque. Il veut absolument pas se mettre en maillot. Il veut absolument pas aller dans l'eau. Il reste sous le casque. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses très bien écrites dans le film. Je trouve quand même que la mise en scène est très très aléatoire. Le début, caméra subjective, je trouve que la mise en scène manque un peu de simplicité.
Mais la caméra subjective, ça ne dure que sur son lit d'hôpital. Hein.
Après, ça bouge pas mal. Je trouve que c'est un petit peu, par moment, il y a des ralentis. Ils en font un peu trop. Mais c'est un bémol. Je trouve que le film a de la force.
Michel ?
J'ai tellement envie de parler de mes deux films préférés que je vais être très court. J'ai été très déçu par ce film, que je trouve une accumulation de clichés.
De clichés ?
Oui, la jeune fille qui avec laquelle il a l'idylle, l'infirmier qui tutoie ou qui parle au patient à la troisième personne. Enfin, j'ai trouvé l'image totalement anodine. C'est-à-dire que tout même le cinéma, c'est l'image. Je veux dire, on n'est pas obligé, parce qu'on fait sur un sujet douloureux, de négliger à ce point le côté visuel. Il n'y a rien de visuel dans ce film. J'ai trouvé le film extrêmement décevant, et surtout qu'il y a tellement de grands films sur l'hôpital. Il y a eu des films extraordinaires, magnifiques, La Chambre des Magiciennes, Au Seuil de la Vie. Il y a même Le Scaphandre et le Papillon. Il y a Johnny Got His Gun. Enfin, des films absolument extraordinaires. Je trouve que pour un premier film, ça manque totalement d'audace, totalement d'originalité. C'est un film effectivement plein de sensibilité, plein de d'apitoiement. Et
bon, ah non,
j'ai pas envie.
Aucun apitoiement.
Non, mais j'ai pas envie d'en dire vraiment. Du mal. On peut aller voir ce film, mais en même temps...
Tu ronges ton frein, quand même.
Je comprends pas que le film soit à ce point dépourvu d'angles aigus, d'interventions originales. Je trouve ça vraiment plan-plan.
Jean-Marc ?
Bah, je suis pas du tout d'accord, parce que justement Le Scaphandre et le Papillon, c'est un film qui ensevelissait sous des effets de cinéma extrêmement factices son sujet, alors que là la modestie formelle du film est absolument son atout. Et je pense pas que le cinéma ce soit forcément de l'image, c'est aussi de l'écriture, c'est aussi une justesse de ton, une direction d'acteur, et tout ça est extrêmement bien mené dans le film. Il y a aucune forme de d'apitoiement, de sentimentalisme, c'est jamais larmoyant, c'est toujours très très aigu, je trouve. trouve. C'est presque documentaire, en fait. On sent en tout cas que c'est très documenté. Et l'authenticité, elle vient...
Voir Hospital de Weizmann, si vous voulez, du documentaire. Bah,
c'est vraiment très, très attaché aux rituels médicaux. Ça ne parle que de ça. Les sous-intrigues sentimentales sont vraiment réduites à très, très peu. Et l'histoire avec la jeune fille, précisément, ça ne va pas déboucher sur une histoire d'amour sentimental. Au contraire, c'est avorté assez vite. Et donc, je trouve que sur ce que c'est que la guérison, c'est extrêmement documenté.
Et puis sur la tétraplégie, il n'y a pas tant de films que ça, mon cher Michel, hein, sur les hôpitaux en général. Mais sur ce cas-là, c'est pas vraiment le cas. Patient de Grand Corps Malade, des réactions sur ce film. Je me dépêche parce que sinon, je sens que Michel va me faire une scène. Donc, je vais reporter vers la fin de l'émission qui approche les derniers Parisiens, hein, parce que sinon, il va quitter la tribune. Et on va dire un mot rapidement des Fleurs Bleues, le film posthume du Polonais Andrzej Wajda, disparu à 90 ans en octobre dernier. Et c'est en 1h30, le biopic de Władysław Strzemiński, 1893-1952, incarné par Bogusław Linda, qui jouait Saint-Just, tu t'en souviens, Michel, dans le Danton du même Wajda, ce théoricien du constructivisme, professeur à l'Académie de Lodz, peintre avant-gardiste, qui avait d'ailleurs perdu un bras et une jambe durant la Grande Guerre, n'était pas vraiment un fan du réalisme socialiste. Et Wajda raconte les 4 dernières années de cet artiste dont le régime stalinien a précipité la chute et la mort. Le paradoxe que tu ne vas pas supporter, Michel, dans ma bouche, c'est que la réalisation, elle, n'est pas très avant-gardiste, même si on peut reconnaître au film testamentaire les vertus qui s'attachent à ce genre de, finalement, de, on sent qu'il a mis beaucoup de lui-même. Mais j'aurais aimé que sur un artiste qui était à ce point insoumis, le film soit un peu moins académique.
Moi, je ne le trouve pas du tout académique, je le trouve classique. C'est-à-dire qu'à 90 ans, Wajda fait son dernier film. Il sentait sans doute la mort approcher. Il pensait qu'il ne ferait pas d'autres films. Donc, c'est une forme apaisée, comme le dernier Houston, Jean de Dublin, comme le dernier Wells, Histoire immortelle. C'est-à-dire que les artistes à cet âge-là n'ont plus rien à prouver. Wajda a fait des films baroques, il a fait des fresques historiques, c'est un immense cinéaste. Qui a eu droit en France à peu près le même nombre de lignes que Zaza Gabor quand ils sont morts tous les deux. Mais néanmoins, je trouve que ce film, sous cette forme apaisée, est un film extrêmement violent. C'est-à-dire que je trouve que Wajda, effectivement, pense sans doute à lui-même, car pour être cinéaste dans un pays communiste, il fallait louvoyer et faire des compromis. Et il admire cet homme qu'il a connu, qui s'est dressé contre un ministre de la Culture en public, qui a vu toutes ses toiles lacérées, qui s'est vu retirer sa carte d'artiste, et donc la lutte qu'il peut y avoir entre la création artistique et le conformisme idéologique. Et c'est un film extrêmement bouleversant, je trouve fort, pour terminer sa vie, encore une fois, après 60 ans de cinéma, à 90 ans, on ne bouscule pas les formes. Je pense qu'à cet âge-là, on s'apaise.
Gros dossier sur Wajda, d'ailleurs, dans le numéro de positif de ce mois-ci. Xavier ?
Moi, je suis un tout petit peu de ton côté. Là, c'est quand même difficile de faire dire à un personnage, à un moment, que l'art ne doit surtout pas se répéter. Il doit se réinventer constamment et aller de l'avant. Et on a vu quand même un film qui, malheureusement, fait oublier toutes les audaces formelles dont a été capable Wajda. Récemment encore, Tatarak, par exemple, qui était quand même un film extrêmement plus intéressant. Là, je suis désolé, c'est du biopic. Oui, effectivement. Alors, comme il s'identifie au personnage, c'est du biopic plaintif, c'est du biopic un peu ampoulé, un peu poussiéreux, sans véritable audace, qui ne réinvente rien, qui surexplique tout à travers le dialogue. Il y a une rivalité, enfin, très intéressante entre lui et sa fille, qui aurait pu vraiment donner quelque chose de fort en termes de scénario et même en termes de mise en scène. Et c'est platement filmé. Je suis désolé, Michel, mais 90 ans, dernier film, je veux bien entendre tout ça. J'ai envie de me dire, je m'en fous. Le film est dans l'état, le biopic d'un artiste face à un régime révolté qui finira par effectivement ne rien céder, ne rien abdiquer et en mourir. Ça aurait dû être un film d'une grande force. Qu'il ait 90 ans, que ce soit le dernier film, je m'en fous. Le film est raté dans l'état.
Jean-Marc ne l'a pas vu, je crois. Sophie ?
Non, moi je trouve que Xavier est un peu sévère. Je trouve que c'est un beau film, émouvant en effet, et d'une grande simplicité et d'un grand classicisme. Je ne le trouve pas ni boursouflé, ni plaintif, comme tu dis. Je trouve que là, tu exagères. Je trouve au contraire, il y a une recherche formelle.
Oh, la mort est quand même pas finement mise en scène.
Oui, il y a sans doute des défauts, mais je trouve quand même que c'est un beau film. Et en plus, moi, c'est un film politique, évidemment, il est question du stalinisme, il est question de la Pologne, de ces années. C'est évidemment un autoportrait en filigrane, même s'il a été plus protégé que Strzemiński.
C'est pour ça que je disais vraiment testamentaire.
Mais c'est beau ce qu'il dit de l'essence même de l'artiste, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, l'artiste doit être non seulement singulier, mais il est seul. Et il est toujours seul. Et quand le ministre de la Culture lui dit, mais de quel côté êtes-vous, il a cette réponse très arrogante qui est du mien. C'est presque, enfin, ça va contre tout collectivisme, c'est de l'individualisme, c'est de l'arrogance, et en même temps, c'est au service du plus grand nombre. Mais je trouve que c'est très incarné, ça. Moi, je trouve que les rapports qu'il a avec sa fille, la façon dont on voit le fantôme de la sculptrice qui était sa femme, d'ailleurs, il paraît qu'il était très, le vrai Stravinsky était d'ailleurs assez odieux avec elle, ils avaient des rapports très conflictuels, ils sont séparés. Ce fantôme de sculptrice qu'on ne voit jamais, cette mère qui est en train de mourir avec cette petite fille qui en est en quelque sorte la dépositaire, je trouve ça très fin et très intéressant dans le film.
Les fleurs bleues de Andrei Vaida et Loving, le nouveau film de l'Américain Jeff Nichols, réalisateur, je vous le rappelle, de Take Shelter et de Mud sur les rives du Mississippi. Et c'est avec Joel Edgerton et Ruth Nega, un film qui retrace l'histoire vraie des époux Loving, ça ne s'invente pas, hein, c'est un nom pareil, à qui on doit l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis déclarant en 67 anticonstitutionnel toute loi apportant des restrictions au droit au mariage en se fondant sur la couleur de la peau des époux. Elle, c'est une couturière noire. Lui, Richard, est un charpentier blanc. Ils sont originaires de Virginie. Ils s'étaient mariés en 58 dans le district de Columbia avant de contourner une loi interdisant les mariages interraciaux. Et à leur retour en Virginie, ils ont été arrêtés, condamnés à la prison pour avoir violé la loi. Film, alors là, pour le coup, Michel, très sévèrement jugé par notre ami Pierre Murat dans Pierrot dans Télérama, qui parle, pour le coup, lui, d'un film figé et académique.
Oui, il est tout seul, ou presque.
Mais... Oui, mais ça ne m'empêche pas de le citer. Jean-Marc.
Moi, j'aime bien le film, même si j'ai dû surmonter une petite déception, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Jeff Nichols, que je considère comme un des 3-4 meilleurs cinéastes américains apparus depuis une quinzaine d'années. Et ce film-là est effectivement un peu plus sage. Il y a quelque chose d'un peu figé, effectivement, dans sa forme, une forme de solennité qui était extérieure jusque-là au cinéma de Nichols. Et Midnight Special, pour moi, était un film beaucoup plus enthousiasmant. Mais je trouve quand même le film extrêmement fin, et si on le juge à une autre échelle, qui serait parmi les films nommés aux Oscars la semaine dernière, les différents films qui traitaient de la question de la ségrégation dans les États-Unis des années 50-60, je trouve que le film n'a ni les défauts du drama emphatique comme Fences, ni le côté feel-good movie des figures de l'ombre, qui a une justesse de ton, une qualité d'observation, de rendu des mécanismes politiques de cette Amérique-là, qui est quand même vraiment passionnant. Et moi, j'aime beaucoup le personnage masculin, qui est bizarrement le personnage qui a le plus profondément intégré la honte, beaucoup plus que son épouse, qui, elle, est noire, et qui va s'éveiller à l'appel des civil rights beaucoup plus facilement que lui. Et je trouve que lui est un personnage vraiment bouleversant dans son côté mutique.
Michel.
Oui, pour moi, c'est le plus beau film vraiment de ce mois. Je trouve le film magnifique, qui conjugue les deux immenses talents de Jeff Nichols, le paysagiste, parce qu'il filme magnifiquement le paysage de Virginie. C'est quand cette femme qui est repartie à Washington, qui revient chez elle et qu'elle redécouvre la nature qui entoure sa maison, c'est magnifique. Et puis aussi, le deuxième grand thème, c'est la famille. Tous ces films sont sur la famille. Cette fois-ci, c'est le couple. Et je crois que j'ai rarement vu, dans l'histoire du cinéma, un aussi beau film sur l'amour conjugal, qui est effectivement un sujet extrêmement dangereux, parce que sans histoire, etc. Mais l'histoire, c'est justement la ségrégation, c'est toute la pression de la société, et ça permet à cet amour conjugal d'être montré dans toute sa tendresse, dans toute sa subtilité, avec deux acteurs formidables. Je trouve que c'est un film bouleversant dans la retenue, précisément, alors qu'il pouvait donner lieu à des débordements de démonstrations, de procès, de films à thèse. C'est le contraire du film à thèse.
Sophie.
Oui, et puis c'est des gens de peu de mots, et c'est des gens modestes, et c'est des gens pudiques, et c'est des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux et qui ne se disent même pas qu'ils s'aiment, alors qu'en effet ils s'appellent Loving et qu'ils s'adorent, c'est magnifique.
Et qui intéresse... et qui vont bouleverser l'histoire.
Et oui, mais bon, et ce qui est magnifique, c'est que Jeff Nichols en effet adopte absolument leur. Alors tu as raison, il n'y a pas d'effet dans sa mise en scène, c'est vraiment d'une simplicité totale. Le procès, on a l'impression qu'il s'en fout un peu, même si c'est court évidemment dans le film. La Cour suprême, ils veulent même pas y aller parce que c'est une occasion quand même d'y aller, ils veulent
oui,
même pas y aller.
C'est un film procès.
Et voilà, et lui, Jeff Nichols, qui est en effet un cinéaste vraiment, vraiment très intéressant, il reste avec eux, il préfère attendre la réponse chez eux. Donc c'est vrai que c'est un film sur l'amour et sur on sent l'admiration de Jeff Nichols pour l'amour de ces deux êtres-là qui ne se disent jamais qui s'aiment.
Xavier.
C'est en deux mots une merveille absolue. Et effectivement, on est estomaqué par la précision de l'écriture de Jeff Nichols, qui ne répète jamais deux fois la même chose. Tu as très bien parlé de la honte du personnage blanc. Dès le début du film, un ouvrier maçon blanc aux États-Unis dans les années 50, c'est quelqu'un qui ne trouve de place que dans la communauté noire, elle-même réprouvée et victime de la ségrégation. Et il n'a plus besoin de dire autre chose sur la condition ouvrière de cette époque-là. S'il a besoin d'interpeller notre époque contemporaine, c'est une seule phrase dans le film quand on lit un extrait du texte de loi Holoving et qu'on dit qu'il n'est pas question que des enfants soient élevés par un couple interracial. On a entendu la même chose sur le pavé parisien il y a deux ans avec le mariage pour tous. Pas question que des enfants soient élevés par deux hommes ou par deux femmes. Donc une seule phrase suffit à raccrocher le film à l'actualité contemporaine. Une seule image permet de raccrocher le film à sa classe sociale, à sa force effectivement mémorielle. C'est un grand film.
Loving de Jeff Nichols, j'avais donc inscrit, je trouve que c'est un très bon portrait de Pigalle, on n'a plus le temps. De jour comme de nuit, c'est Les Derniers Parisiens, le premier long métrage des rappeurs de la rumeur Amé et Coué avec Reda Kateb, Slimane Dazy et Mélanie Laurent, qui est un portrait assez compliqué, en même temps très simple, de ce Pigalle qu'on croit connaître et finalement qu'on ne connaît pas. Vous l'avez aussi aimé?
Alors moi je le garde en coup de cœur parce que je trouve ça absolument formidable. Alors, une rivalité.
On y va pour les coups de cœur, vas-y.
Deux frères, une rivalité ancienne. Un amour impossible et en même temps une fusion quelque part, une mémoire enfouie qu'on va découvrir très très peu et même, en même temps effectivement le vrai personnage c'est Pigalle, c'est le café qu'ils tiennent tous les deux, c'est
le prestige
et c'est tous ces petits métiers qui sur le bitume, en plein soleil ou sous la pluie continuent d'exister, les joueurs de bonneteau, le vendeur de disques, il y a une scène magnifique où on suit un type qui vend des disques et des CD comme ça dans les boutiques et ils arrivent à faire vraiment les deux auteurs exister, non seulement les personnages principaux, tous les personnages satellites, toute cette vie, cette circulation. Le montage donne en plus cet effet de perdition. Il y a un personnage un peu inutile qui est celui du SDF qui apporterait de la poésie néo-réaliste, pas très intéressante. Mais le reste du film, je trouve vraiment une force comme ça, testimoniale, d'immersion. Non, c'est vraiment très très prometteur.
Je suis bien d'accord. Les Derniers Parisiens signés
les deux acteurs,
Amé et Coué.
Magnifique.
Oui. Et Reda Kateb, il faut dire que. Il était un peu rescapé de... Parce qu'au début du film, il sort de prison, mais moi, je pensais surtout qu'il sortait du dernier film de Wenders, où il avait quand même beaucoup, beaucoup souffert. Et là, tout d'un coup, il a retrouvé une liberté incroyable. Le conseil de Jean-Marc.
Yourself and Yours, le dernier film sorti en France, en tout cas, parce qu'il tourne énormément, du coréen Hong Sang-soo. C'est une histoire d'amour avec un personnage féminin dont on ne sait pas si elle a un double ou si elle ment en permanence en faisant croire qu'elle a un double. Et c'est un film... extrêmement profond et vertigineux sur l'amour, l'amnésie, l'un étant lié à l'autre. C'est un film magnifique.
Mon conseil, c'est Noces au pluriel du Belge Stefan Strecker, une sorte de tragédie grecque déplacée en Belgique où Zeira, qui est une fille de 18 ans, découvre qu'elle est enceinte et se voit imposer par sa famille un mariage par Skype avec un Pakistanais. Elle va résister la petite et puis elle va finir par céder. J'en dis pas plus. La fille qui joue cette Zahira, qui s'appelle Lina El Arabi, est époustouflante. Je trouve que c'est rien que pour elle, c'est un film absolument incroyable que Noces au pluriel. Le conseil de Michel.
D'accord pour Noces. Alors moi, je voudrais signaler la reprise 50 ans, plus de 50 ans après, du film de Chris Marker, Description d'un combat, qui est un documentaire qu'il a fait en 1960 sur Israël. On a l'impression que c'est une autre époque. D'ailleurs, il voulait pas qu'on remontre le film parce que le peuple palestinien est complètement ignoré. C'est un film qui montre l'Israël des pionniers. Il sort en même temps en DVD accompagné d'un autre film tout à fait passionnant qui est un commentaire sur le film de Marker. Donc, allez voir ce grand documentariste qui est Chris Marker dans ce film de 1960, Description d'un combat, qui est un portrait d'un Israël jeune, encore idéaliste, et on sait tout ce qui s'est passé depuis.
Le conseil de Sophie.
Certaines femmes de Kelly Richards, qui est une cinéaste américaine indépendante, qui a un film absolument magnifique, qui a l'air de rien comme ça au départ, minimaliste et tout, et qui a une ampleur, une justesse, qui est adaptée des nouvelles de Melly Mello. C'est l'histoire de quatre femmes.
Et les comédiennes sont formidables.
C'est un film sur le délitement intérieur, sur la grande fatigue des femmes, et en même temps, il n'est jamais triste. Il est incroyable ce film, je le trouve superbe.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Michel Simon, Jean-Marc Lalanne, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella, mais avec ce soir à la technique au studio Sacha Guitry, Éric Boisset, Nadège Antonini et Amandine Grévose. La réalisation était signée Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, il aura lieu le jeudi 16 mars. Ce sera à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. On parlera de livres dans une semaine. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.